Voilà, je pense qu'il va être à peu près l'heure. Donc, bonjour à tous. Je pense que vous avez dû trouver à l'entrée la feuille avec le texte, l'extrait de Théière de Chardin. Donc, je m'étais proposé de vous remettre ce texte. J'ai fait en demi-format pour, simplement par mesure d'économie. Hein. Ce n'est pas parce que le texte n'est pas important, mais j'ai coupé en deux. Comme ça. Ça permet de le relire tranquillement. Je suppose que vous avez rapporté la feuille du plan de mardi dernier, parce que je vais d'abord, dans un premier temps, terminer ce chapitre, ou à vrai dire cette première partie du cours. On s'était intéressé au développement de la christologie en Europe, et puis la dernière fois, on a pu découvrir les nouvelles orientations de la christologie en Amérique latine, et aussi au-delà de l'Amérique latine, autour du thème de la libération, Jésus libérateur. J'avais montré comment cette intuition des théologiens latino-américains s'était retrouvée sous d'autres formes, également dans d'autres courants christologiques aux États-Unis, en Afrique ou en Asie. Alors, dans ce panorama des évolutions de la christologie en dehors de l'Europe, je voudrais maintenant aborder une deuxième série de réflexions. L'autre jour, c'était Christologie et libération à partir de l'Amérique latine. Maintenant, ça va être Christologie et inculturation. Et là, je prends comme point d'appui privilégié l'Afrique, spécialement l'Afrique au sud du Sahara. Parce que c'est sans doute dans ce continent que ce courant de la théologie s'est particulièrement développé, même si, là encore, qu'il a essaimé dans d'autres continents, et notamment en Asie. En effet, parmi les évolutions significatives de la christologie au XXe siècle, il y a eu celles qui ont été liées à l'intense réflexion sur les cultures, le christianisme et les cultures, et notamment les évolutions liées à la notion d'inculturation. Le mot inculturation, c'est un mot qui s'est surtout répandu à partir de la fin des années 1970. Il y avait une lettre importante du père Pedro Arrupé, l'ancien supérieur général de la Compagnie de Jésus, sur le thème de l'inculturation. Globalement, enfin, l'idée de l'inculturation, c'est l'idée selon laquelle il ne suffit pas d'importer une théologie chrétienne ou une pratique chrétienne dans d'autres continents, mais il faut trouver des manières significatives, originales, de présenter la foi chrétienne dans les diverses cultures du monde. Alors c'est une réflexion, cette réflexion sur l'inculturation a eu beaucoup d'écho, notamment dans l'Afrique subsaharienne, et en particulier dans le champ de la christologie. Et ça, c'est pour cette raison que je tiens à en dire un mot. Il y a eu en effet des tentatives diverses pour parler du Christ en faisant appel à des images ou à des catégories qui étaient particulièrement significatives dans le cadre des sociétés de l'Afrique subsaharienne. Et cela se fondait théologiquement sur la doctrine même de l'incarnation. Les théologiens africains qui se sont engagés dans cette voie raisonnaient de la façon suivante. Jésus-Christ, c'est le Verbe fait chair, enfin, Dieu est devenu homme, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Eh bien, cette incarnation du Verbe de Dieu en Jésus-Christ invite les chrétiens à pouvoir eux-mêmes incarner le message de l'Évangile, à pouvoir l'inculturer de façon diverse et variée selon les différentes cultures du monde. Je voudrais tout de suite donner l'exemple de la réflexion d'un théologien congolais, François Kabazélé. Il écrit ceci, donc vous avez le texte hein, sur la feuille que j'ai donnée la dernière fois. sur la page 4, en haut de la page 4, il écrit ceci. Voici que le Verbe s'est fait chair, et cette fois-ci, il a habité parmi les Noirs d'Afrique. Le début de ce texte est déjà significatif. Il part de l'incarnation. Et cette fois-ci, donc, il a habité parmi les Noirs d'Afrique. Non pas que l'incarnation se refera à nouveau frais. Jésus est né une fois pour toutes. Il était juif, peau basanée, cheveux noirs, bref, de type méditerranéen. Il fut de son temps et de son époque. Mais il n'intéressera toutes les races et toutes les époques que dans la mesure où toute race, toute époque se sentiront concernées par lui et où toute race et toute époque l'accueilleront avec leurs assises propres et leurs propres questionnements. S'il naquit juif, ce ne fut pas pour faire de tous les hommes des juifs et des méditerranéens. Et un peu plus loin, il écrit « Si le message du Christ concerne toute l'histoire des hommes et toutes les étendues humaines, c'est parce qu'il a pour tâche de s'incarner dans toute culture, constituant ainsi un ferment de salut pour les hommes de tous les temps et de tous les lieux. » Bon, j'aurais pu citer beaucoup d'autres textes qui vont dans le même sens, mais celui-là résume bien la perspective d'ensemble de ces théologiens africains. Ce texte date des années 1980, et de fait, c'est surtout dans les années 70-80 que cette thématique, christologie et inculturation, a été particulièrement développée. De façon plus précise, cette quête d'une christologie inculturée a trouvé un point d'application en Afrique dans la recherche de ce qu'on appelle des titres christologiques révélateurs ou pertinents en contexte africain. Au fond, la démarche a consisté à repérer, à identifier dans les sociétés de l'Afrique subsaharienne un certain nombre d'images, de concepts, de noms, de titres qui pouvaient être plus ou moins appliqués à Jésus de Nazareth et qui du coup étaient très parlants pour les chrétiens du lieu. Par exemple, dans des sociétés de l'Afrique traditionnelle, la notion de chef est une notion très importante, le chef d'une tribu, le chef. Bon. Alors, on a essayé de reprendre, d'exploiter d'une certaine manière la valeur de ce concept pour l'appliquer à Jésus. De même, on donne beaucoup d'importance dans certaines de ces sociétés au titre de l'ancêtre. L'ancêtre dans une société africaine, eh bien, on a parlé de Jésus comme ancêtre. On a parlé de Jésus comme aîné, comme maître d'initiation, comme guérisseur, etc. On a repéré des images, des noms significatifs pour ces sociétés africaines et on les a appliqués à Jésus de Nazareth. En fait, la démarche n'était pas une démarche simple. On peut dire qu'elle se résumait finalement en trois étapes. Bon, première étape, eh bien, les théologiens commençaient, enfin, j'en parle surtout au passé, ça continue encore maintenant, mais c'est vrai que c'est moins présent maintenant. C'était surtout très développé dans les années 70-80. Eh bien, première étape, donc, on commençait par réfléchir sur ces noms familiers aux traditions de ces sociétés d'Afrique de l'Ouest en particulier, ou d'Afrique centrale aussi. Que veut dire, par exemple, la notion d'ancêtre dans une société. Et puis, dans un deuxième temps, deuxième étape, on essayait d'appliquer cette notion à Jésus en montrant justement les parentés. Je donne un exemple. Les ancêtres dans les sociétés de l'Afrique subsaharienne exercent une sorte de médiation entre le ciel et ceux qui restent sur terre. Eh bien, on s'est dit, ça peut justement être appliqué à Jésus. Jésus exerce une médiation entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. C'est même dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ médiateur entre Dieu et les hommes. Et en même temps, on ne pouvait pas en rester là. il y avait une troisième étape qui était nécessaire et qui consistait à dire que, malgré tout, aucune de ces notions empruntées aux cultures de l'Afrique subsaharienne ne pouvait, à elle seule, ou de manière suffisante et de manière adéquate, rendre compte de l'identité du Christ. Je reprends le même exemple, l'exemple de l'ancêtre. Bien sûr, les ancêtres dans les sociétés de l'Afrique subsaharienne exercent traditionnellement une sorte de médiation entre le ciel et la terre, mais dans le cas de Jésus, il y a quelque chose d'incomparable, il y a quelque chose d'unique dans sa médiation, parce que Jésus n'est pas simplement un intermédiaire entre le ciel et la terre, Jésus est lui-même, comme le dit la foi de l'Église, vrai homme et vrai Dieu, et il est donc médiateur dans un sens radical, dans un sens unique. Donc, cette tentative d'application d'un certain nombre d'images, de concepts pertinents en Afrique, cette tentative d'application de ces concepts ou de ces images à Jésus n'était pas une opération simple. Il fallait à la fois dire en quoi on pouvait effectivement appliquer ces images ou ces concepts à Jésus, mais il fallait aussi dire en quoi le Christ surpassait ou surpasse ces images et ces concepts, en quoi le Christ, au fond, est irréductible à toute image ou à tout concept que l'on peut élaborer à son propos. En tout cas, ce sont des tentatives qui ont été extrêmement importantes et, dans certains cas d'ailleurs, ces tentatives rejoignaient tout à fait celles dont témoigne le Nouveau Testament. Par exemple, quand on appliquait à Jésus le titre de guérisseur, bon, ben, on retrouvait quand même une donnée du Nouveau Testament. Enfin, l'importance des guérisons dans les évangiles, quelque chose de tout à fait majeur. Alors, il faut réfléchir un tout petit peu sur la portée de ces tentatives christologiques dans ces régions, dans ces pays de l'Afrique. Portée de ces tentatives, je dirais la première portée, c'est que par ce biais, des théologiens africains ont essayé de trouver des expressions originales de la christologie. Voilà. Des expressions originales de la christologie. Il y a une sorte d'enrichissement de la christologie universelle, en quelque sorte, qui a été favorisé par ces efforts pour appliquer à Jésus de Nazareth des images ou des concepts particulièrement pertinents dans le contexte des sociétés africaines, spécialement de l'Afrique au sud du Sahara. Alors, une deuxième portée de ces tentatives christologiques, c'est qu'elles nous aident à réfléchir sur la continuité et la rupture par rapport aux images disponibles ou aux concepts disponibles dans une culture donnée. Je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'exemple que j'ai pris, le concept d'ancêtre. On peut légitimement utiliser ce concept pour l'appliquer à Jésus, mais jusqu'à un certain point seulement. Parce qu'il n'y a pas seulement des parentés entre Jésus de Nazareth et l'ancêtre au sein d'une société africaine traditionnelle, il y a aussi des différences. Donc, Jésus n'est pas réductible, évidemment, à ce titre d'ancêtre. Et, au fond, par là même, nous sommes renvoyés à une réflexion sur ce qui est en jeu dans le Nouveau Testament lui-même. Lorsque les écrivains du Nouveau Testament utilisent des images ou des concepts disponibles dans la société, dans les cultures de leur temps, à la fois il y a une continuité et il y a une rupture. Par exemple, l'une des images disponibles dans la société palestinienne du temps de Jésus, c'est évidemment l'image du berger, du pasteur. Bon, c'est pas seulement à cette époque, aujourd'hui encore, on voit des bergers, des pasteurs. Hein. Enfin, dans la société palestinienne, on en voyait beaucoup, évidemment, de pasteurs avec leurs brebis, etc. Alors, les textes du Nouveau Testament, enfin, je pense surtout, évidemment, à l'évangile de Jean, hein, « Je suis le bon pasteur bon, », ils reprennent cette image qui est disponible, à vrai dire, c'est Jésus lui-même, sûrement, qui reprend le premier cette image disponible, Et alors, quand l'Évangile met sur les lèvres de Jésus la parole « Je suis le pasteur, le bon pasteur », à la fois, il y a une continuité, hein, parce que ce qu'on dit à propos du pasteur, qu'il veille sur ses brebis, etc., ça s'applique tout à fait à Jésus qui veille sur ceux qui lui sont confiés. Et en même temps, il y a une différence, il y a une rupture, parce que Jésus n'est pas un berger comme n'importe quel berger dans le Vercors, ou je ne sais pas où, hein, c'est un pasteur tout à fait exceptionnel, unique, hein, de part de la mission qui est la sienne vis-à-vis de ceux et celles qu'il rencontre sur sa route. Continuité et rupture. On ne peut pas faire autrement que reprendre des images ou des concepts disponibles dans la société ou dans la culture. Les auteurs du Nouveau Testament l'ont fait, les théologiens africains, ces dernières décennies, l'ont également fait par rapport à des images ou des concepts disponibles dans leur propre société. Mais, bien sûr, ce travail est à la fois nécessaire et insuffisant, parce que toutes les images réunies ne suffisent pas à rendre compte de l'identité unique, incomparable de Jésus-Christ. Vous voyez, le deuxième intérêt de ces théologies africaines récentes, c'est de nous aider à réfléchir sur le langage même de la christologie. Dans le Nouveau Testament, il y a un nombre considérable d'images ou de concepts qui sont employés à propos de Jésus. Il y a un auteur du IIIe siècle, hein, Origène, qui disait qu'il y avait une centaine de titres appliqués à Jésus. Alors, il est vrai qu'il prenait en compte toute la Bible, hein, donc il s'appuyait aussi sur des images de l'Ancien Testament qu'il appliquait rétrospectivement à Jésus. Enfin, ça fait quand même beaucoup. Jésus comme la vie, Jésus comme le pasteur, Jésus comme l'époux, etc. On pourrait en trouver, de fait, beaucoup. Bien, c'est un processus tout à fait analogue dans lequel sont engagés ces théologiens africains. La démarche ne consiste pas à importer purement et simplement une théologie qui a été élaborée dans le contexte de l'Occident européen. Mais la démarche consiste d'abord à partir des images ou des concepts significatifs dans les cultures locales et à essayer jusqu'à un certain point de les appliquer à Jésus, tout en montrant à partir de quel point, justement, ces images sont inadéquates et insuffisantes. Et alors, je dirais, dernière portée de ces tentatives d'inculturation, de christologie inculturée, eh bien, c'est que, à travers ces réflexions développées par des théologiens africains, nous sommes renvoyés à des questions tout à fait fondamentales de la christologie. Alors, il y a d'abord la question des titres christologiques que je viens d'évoquer. Il se trouve que précisément, cette question est très étudiée aujourd'hui par les exégètes contemporains. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'études qui sont menées sur les appellations de Jésus dans les évangiles ou plus largement dans le Nouveau Testament. Et surtout, là aussi j'y ai déjà fait allusion, la question fondamentale à laquelle nous renvoient ces tentatives de christologie inculturée, c'est la question de la médiation. Voilà. L'ancêtre exerce une sorte de médiation, le guérisseur aussi, l'aîné aussi, et en ce sens-là, toutes ces images peuvent être appliquées à Jésus. Et en même temps, la tâche de la christologie, ou l'une de ces tâches, c'est malgré tout de rendre compte de ce qui est tout à fait unique dans la médiation du Christ. Le Christ n'est pas simplement intermédiaire entre Dieu et les hommes, parce que, après tout, on pourrait dire les saints, eux aussi, sont, en un sens, des intermédiaires entre le ciel et la terre. La Vierge Marie, intermédiaire entre le ciel et la terre. Mais justement, les saints, la Vierge Marie, sont des créatures humaines. Tandis que nous disons à propos de Jésus-Christ, il est vraiment homme, et inséparablement, il est le Fils de Dieu. Et donc, il est médiateur, comme dit saint Paul, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'est pas un intermédiaire au sens large, simplement, il est au sens strict, médiateur entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire, il est lui-même, dans sa propre personne, vrai homme et vrai Dieu. Je voudrais ajouter encore deux mots à propos de ces réflexions sur christologie et inculturation. Le premier mot que je vais ajouter, c'est que, bon, j'en ai parlé plus tôt au passé, ça ne veut pas dire que ça ne continue pas aujourd'hui, il y a toujours des réflexions de ce type, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans ou il y a 30 ans, il y a, enfin, la christologie ou les christologies en Afrique sont en même temps habitées par d'autres questionnements. D'autres questionnements, ceux par exemple qui sont liés à la présence de l'islam, ceux qui sont liés aussi au développement de l'urbanisation, des industries, des techniques, etc. Donc ça pose quand même des problèmes tout à fait spécifiques. On voit bien qu'on ne peut pas simplement reprendre des titres ou des images familières aux sociétés traditionnelles, mais qu'il faut aussi prendre en compte, au fond, le contexte de la mondialisation dans lequel les sociétés africaines se trouvent désormais de plus en plus impliquées. Et puis, je suis frappé par le fait que, au moins à travers l'une ou l'autre publication que j'ai pu repérer, les théologiens africains aujourd'hui sont davantage sensibles à une réflexion sur l'histoire même, enfin l'histoire de l'Afrique et l'histoire des communautés chrétiennes en Afrique. Parce que si vous voulez, ces tentatives de christologie inculturée, elles sont très intéressantes, hein, j'ai essayé de le dire. En même temps, elles peuvent courir le risque parfois d'une certaine abstraction. Parce que l'Afrique, ben, c'est pas simplement l'héritage de ces sociétés traditionnelles avec la présence des guérisseurs, des ancêtres qui exercent diverses formes de médiation, etc. Mais l'Afrique, c'est aussi bah, tout ce qui se passe du point de vue politique, enfin, les grandes secousses qui traversent le continent africain ou certains pays en particulier. Et ça fait partie de la tâche des théologiens africains aujourd'hui que de prendre aussi à bras le corps cette question, enfin, comment la christologie en Afrique peut être aussi, peut-être même d'abord, une théologie qui réfléchit sur l'accueil du Christ ou éventuellement le refus du Christ dans l'histoire concrète des sociétés africaines et de l'Église au sein de ces sociétés. Voilà, tout ça pour dire que ces tentatives de christologie inculturée ont été importantes, le reste, mais elles ne constituent pas le tout de la théologie africaine aujourd'hui, tant s'en faut. Alors, le second mot que je voudrais ajouter aussi au terme de ce développement, c'est qu'il s'est passé et il se passe pour ces réflexions menées par des théologiens africains quelque chose d'analogue à ce que nous avons vu l'autre jour avec l'Amérique latine. C'est-à-dire que leurs intuitions se sont trouvées transportées, en quelque sorte, aussi dans d'autres continents. Et sans doute, le cas le plus significatif, c'est l'Asie. Aujourd'hui, en Asie, et là, on n'est pas dans le passé, hein, c'est vraiment en pleine actualité, il y a un petit temps de... C'est venu un peu... Enfin, comment dirais-je ? En Asie, à la fois, c'est antérieur et c'est postérieur à l'Afrique. C'est antérieur à l'Afrique parce que, de sa manière, les tentatives de christologie inculturée, elles ont commencé il y a plusieurs siècles. Hein. Si on pense à des pionniers comme Matteo Ricci, hein, le jésuite Matteo Ricci, qui s'était rendu en Chine à la fin du XVIe siècle. Bon, pour ne pas remonter plus loin, hein, déjà à l'époque, durant le premier millénaire, à la fin du premier millénaire, lorsque des moines venus de Perse avaient déjà essayé d'inculturer, en quelque sorte, le christianisme en Asie, en Chine. Donc, en un sens, de ce point de vue-là, l'Asie a précédé l'Afrique. Dans un autre sens aussi, elle l'a suivi. Parce qu'on constate que, alors que pour l'Afrique, c'est surtout il y a 20 ou 30 ans que ces tentatives de christologie inculturée étaient très développées, aujourd'hui, en Asie, c'est très, très actuel. Et dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, hein, aussi bien en Inde qu'en Corée ou ailleurs, vous avez des théologiens qui essayent de trouver, alors dans leur propre contexte, hein, qui donc n'est pas le contexte africain, mais le contexte de tel ou tel pays asiatique, eh bien, ils essayent de trouver des images, des notions enfin, significatives pour parler du Christ. Je donne un tout petit exemple, en Chine, à Taïwan, par exemple, il y a un théologien qui a essayé de s'appuyer sur le confucianisme, la culture confucéenne, pour développer une réflexion christologique qui parle beaucoup de la, de l'harmonie, l'harmonie entre le ciel et la terre. Voilà, les catégories de ciel et de terre sont des catégories universelles, bien sûr, enfin, elles sont très présentes dans la tradition confucéenne. Et la catégorie de l'harmonie, l'harmonie pour Confucius, une notion très très importante. Alors vous avez des théologiens, enfin je pense surtout un théologien à Taïwan qui a essayé de, au fond, de repenser la christologie en faisant appel à ces images ou à ces notions qui sont parlantes pour des personnes qui ont été marquées par la tradition confucéenne. On pourrait dire, on pourrait donner d'autres exemples, comme par exemple celui du Tao, dans la tradition du taoïsme, Tao, Dao, suivant la graphie, c'est ce qu'on traduit par la voix, en langue française, la voix, V-O-I-E. Eh bien, il y a des théologiens qui se sont emparés, en quelque sorte, de cette notion qui est fondamentale, en particulier pour le taoïsme, et qui l'ont mise au service de la réflexion christologique. Le Christ étant lui-même présenté dans l'évangile de Jean comme la voie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors, on voit comment se fait le lien. Alors, ceci m'introduit tout naturellement au troisième point que je voulais apporter, c'est-à-dire les nouvelles réflexions dans le contexte plurireligieux, et là je prends comme référence privilégiée le continent asiatique. C'est certainement aussi parmi les évolutions les plus importantes de la christologie contemporaine, en dehors de l'Europe. Ces tentatives pour repenser le mystère du Christ dans un contexte éminemment plurireligieux, comme l'est celui de l'Asie. Alors, ces réflexions christologiques en contexte plurireligieux, elles prennent en fait plusieurs formes. Je dirais la première forme qu'elles prennent est assez proche de ce que j'ai développé précédemment à propos de l'inculturation. À cette différence près que dans le cas de l'Asie, justement, la problématique n'est pas simplement de développer une christologie inculturée, mais la problématique, c'est de développer une christologie qui soit pertinente dans un contexte qui est inséparablement culturel et religieux. Voilà. Inséparablement culturel et religieux. Alors, je voudrais illustrer cela par la réflexion d'un théologien indien, Michael Amalados, qui a écrit il y a quelques années un livre intitulé « Jésus asiatique », qui a été traduit en français en 2007. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Et il dit ceci. « Je souhaite simplement rechercher certaines images de Jésus dans le contexte de l'Asie d'aujourd'hui. Ce contexte, c'est celui d'un pluralisme culturel et religieux. » Autrement dit, Michael Amalados, il s'engage dans une démarche très proche de celle des théologiens africains dont je parlais précédemment, mais il ne va pas s'intéresser simplement à des traits culturels de l'Inde ou de la culture indienne, mais il va s'intéresser aussi aux religions elles-mêmes. Il va essayer de voir ce qui, dans les religions pluriséculaires de l'Inde, peut être en quelque sorte convoqué au service de la réflexion christologique. Alors, je poursuis la lecture de son texte. Je regarde ces images en tant qu'Indien et en tant qu'Asiatique. En tant qu'Indien et en tant que chrétien d'Asie, j'ai l'impression que les cultures et les religions asiatiques ne me sont pas étrangères. Elles sont mon héritage et appartiennent à mes ancêtres. Lorsqu'une image comme celle du gourou indien est utilisée, les hindous peuvent la considérer comme leur, et les chrétiens peuvent la penser comme hindous. Même si je ne renie pas son utilisation dans des contextes hindous, je pense que cette image est plus indienne qu'hindoue, car elle est plus culturelle et linguistique que religieuse. C'est pourquoi j'ai le sentiment d'avoir le droit de l'utiliser dans mon propre contexte de chrétien indien. Je ne dois m'excuser auprès de personne et n'ai besoin de la permission de personne pour l'utiliser. Vous voyez le raisonnement, hein, c'est pas parce que des hindous utilisent cette notion de gourou que moi, comme chrétien de l'Inde, je n'ai pas le droit de l'utiliser dans le cadre de ma propre réflexion théologique. Pourquoi ne pas parler de Jésus comme d'un gourou? Quitte à expliquer le moment venu que Jésus est gourou dans un sens tout à fait unique, évidemment. On retrouve le même problème qu'à propos de l'exemple de l'ancêtre en Afrique. L'image, elle est nécessaire, mais elle est aussi déficiente. Elle est insuffisante à partir d'un certain point. Alors, je reviens au texte de Michael Amanados. Nuance très très importante. Il est cependant vrai que tous les symboles utilisés dans un contexte religieux particulier ne sont pas sujets à la réinterprétation. Ou si vous voulez, en d'autres termes, tout ne peut pas être christianisé. Tout ne peut pas être matière à une christologie inculturée. Alors, il donne aussitôt un exemple. Si je parle de Krishna, Rama ou Shiva, la fameuse triade du panthéon hindou. Donc si je parle de Krishna, Rama ou Shiva, ou des symboles qui leur sont étroitement associés dans les mythes et la vénération hindoue, je me place évidemment dans le contexte de l'hindouisme. Il ne sera pas seulement ambigu, mais aussi impropre d'utiliser de tels noms et de tels symboles pour Jésus. Mais un symbole comme celui de gourou n'est pas hindou, mais indien et commun, même s'il est également utilisé dans des contextes hindous. Vous voyez le raisonnement. Je ne peux pas dire, je ne peux pas utiliser le nom, le titre Krishna ou Shiva pour l'appliquer à Jésus. Parce que là, il y a une sorte d'incompatibilité fondamentale. Il y a quelque chose qui est pertinent, qui est très parlant pour les hindous, mais que je ne peux pas récupérer, en quelque sorte, dans le cadre d'une théologie chrétienne. Par contre, au sein de la tradition indienne, je trouve des notions comme celle de gourou, ou bien celle d'avatar, c'est l'exemple qui va prendre ensuite, qui, elles, bien sûr, elles sont utilisées par l'hindouisme, dans un sens qui est propre à l'hindouisme, et que le christianisme ne fait pas sien. Mais en même temps, ces mêmes notions de gourou ou d'avatar peuvent être mises à profit par les théologiens chrétiens au service de leur propre théologie. Bon, je donne un exemple d'un tout autre ordre, si vous voulez, la flûte. Bon, la flûte, l'instrument de musique. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu des représentations de la triade hindoue, je ne sais plus quel est le... C'est Krishna, oui. Krishna, on représente souvent avec la flûte. Voilà. Bon, ben, il n'y a aucun problème que la liturgie chrétienne en Inde justement mette à profit ce symbole de la flûte. Mais Krishna lui-même, non. Enfin, vous voyez, c'est ça que veut dire Amanados. Qu'est-ce qui est... Dans toute société, dans toute culture, il y a des éléments qui sont disponibles pour la christologie et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Mais l'important, c'est de comprendre que la ligne de partage n'est pas entre, d'une part, la culture et de l'autre, la religion. L'idée de Michael Amanados, c'est qu'au sein même de l'hindouisme, il y a certains éléments qui sont disponibles pour une réflexion christologique. Voilà. Alors, il donne un autre exemple après, c'est l'exemple d'avatar. Donc, avatar, c'est une notion très importante dans l'hindouisme. Ça veut dire, littéralement, ça veut dire la descente, hein, l'avatar. Hein, c'est l'idée que des divinités peuvent descendre, peuvent se manifester sur Terre, hein, et puis disparaître à nouveau, hein, les avatars. Voilà. Eh bien, Michael Amanados explique, en appelant Jésus avatar, donc il dit clairement, je peux réutiliser cette notion et l'appliquer à Jésus lui-même, en présentant Jésus comme descente de Dieu, comme manifestation de Dieu, hein, même si bien sûr il faut le faire dans un sens tout à fait unique, hein, dans le cas de Jésus. En appelant Jésus avatar, je ne le compare ni à Krishna, ni à un autre avatar, alors qu'un avatar a une signification commune. Lorsque je l'emploie pour qualifier Jésus, il acquiert un sens particulier qui lui est conféré par Jésus lui-même. Le terme ou le symbole acquiert un nouveau contenu. Et non, c'est une, ce sont des opérations délicates. Hein. Et vous avez noté, l'auteur de ces lignes, c'est un Indien. Et c'est compréhensible. Seul quelqu'un qui est lui-même héritier de la culture en question peut être vraiment à même de discerner au sein de sa propre culture ce qui est ou non matière à une réflexion christologique. Enfin, seul. Bon, je pense aussi que des missionnaires venus de l'Occident et qui ont pleinement joué le jeu de l'inculturation bien comprise peuvent aussi aider à ce travail. Mais ceux qui sont en première ligne, je dirais, pour ce travail d'inculturation, aujourd'hui, ce sont évidemment les, ben ceux qui appartiennent à ces cultures et qui ont le sens. Hein. À la mesure de leur foi chrétienne, bien, ils sont particulièrement bien placés pour déterminer ce qui est compatible ou non avec, avec la réflexion christologique, hein, ce qui peut être ou non assimilé par une réflexion christologique. L'un des grands intérêts de cette réflexion, c'est qu'elle renvoie aussi la théologie européenne aujourd'hui à l'une de ses tâches fondamentales. Il y a 8 jours, ces évolutions de christologie en dehors de l'Europe, elles refluent positivement en Europe, ou elles devraient refluer positivement en Europe, au service même de la théologie européenne. Parce qu'en Europe aussi, nous sommes de plus en plus confrontés à des images, des réalités, des concepts nouveaux. Enfin, nous sommes quand même dans une phase de mutation culturelle intense. Et est-ce que nous n'avons pas en Europe à faire aussi quelque chose d'analogue à ce qui est fait aujourd'hui par des théologiens en Afrique, en Asie? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui aussi en Europe des tâches analogues d'inculturation? Enfin, je pense que les catéchistes en font l'expérience tous les jours, enfin en tout cas à chaque séance de catéchisme. L'enjeu, c'est d'arriver à trouver des images, des mots qui vont être parlants pour les enfants ou pour les jeunes. Il y aura une distance considérable entre le langage sur le Christ et la réalité culturelle de ces jeunes ou de ces enfants. Alors ça, c'est un premier aspect, si vous voulez, du travail qui est mené par les théologiens asiatiques aujourd'hui. Et je pense que c'est un travail qui a beaucoup d'avenir devant lui. Je pense qu'on est peut-être qu'au début, hein, même s'il y a eu des pionniers comme Ritchie dans le passé, c'est un travail qui demande des générations. Hein. Quand on voit le temps qu'il a fallu, moi j'y pense souvent, c'est impressionnant, le temps qu'il a fallu pour les régions autour du bassin méditerranéen, enfin, lorsque l'évangile s'est répandu hors de la Palestine, en direction de la Grèce, puis de l'Italie, de la Gaule, il a fallu plusieurs siècles pour que, justement, il y ait une sorte d'inculturation du message évangélique dans les langues grecques, latines, etc. Alors, il ne faut pas s'étonner si ça prend du temps. Ça prendra encore beaucoup de temps, je pense, en Afrique, en Asie. Mais ça, ce n'est qu'un premier aspect. Alors, il y a un autre aspect du travail théologique dans le contexte plurireligieux de l'Asie, c'est tout ce qui touche les débats sur l'unicité du Christ. Et là, on est en présence d'une question difficile, délicate, qui certainement enfin, représente l'une des questions majeures pour les décennies qui viennent, je pense. Hein. Pas seulement d'ailleurs au niveau de l'Asie, mais aussi, c'est une question qui se pose sous d'autres formes dans d'autres continents de plus en plus. La question, elle peut se résumer de façon toute simple. Le Christ doit être annoncé dans un monde qui, plus que jamais, nous apparaît comme un monde plurireligieux. Mais comment parvenir à rendre compte, au sein de ce monde plurireligieux, comment parvenir à rendre compte de ce qui fait l'unicité du Christ, Jésus-Christ, qui est présenté dans l'évangile de Jean comme le Fils unique, l'unique engendré du Père. Alors cette question a donné lieu et donne lieu à des débats très très intenses. Très très intenses. Je donne un exemple assez fameux, c'est l'exemple de Raimundo Panikkar. Bon, Raimondo Panikkar est un théologien indien, il est décédé il y a quelques années, auteur d'une œuvre monumentale, écrit beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Ce théologien avait une mère espagnole catholique et un père indien hindou. Et il a enseigné lui-même en Inde, mais aussi aux États-Unis, en Californie. J'avais essayé de le rencontrer plusieurs fois. Alors, j'étais allé en Inde, mais quand j'étais allé en Inde, j'étais même allé là où il enseignait, à Varanasi, à Benares. Alors, j'avais su à ce moment-là qu'il n'était pas en Inde à ce moment-là, mais aux États-Unis. Et une autre occasion, je me suis trouvé aux États-Unis, en Californie. Je pensais le rencontrer à Santa Barbara, là où il enseignait. À ce moment-là, il était en Inde. Et puis finalement, on a pu se rencontrer une fois à Paris. Voilà, on s'est retrouvés, on a passé 2 heures ensemble pour discuter sur ces questions-là, justement. Alors, l'œuvre de Panikkar est tout à fait significative, révélatrice, si vous voulez, de cette question difficile, ce débat difficile autour de l'unicité du Christ. Pourquoi ? Eh bien parce que Panikkar avait écrit au début des années 60, en 1964, un livre assez fameux intitulé « Le Christ inconnu de l'hindouisme ». Le Christ inconnu de l'hindouisme. Et dans ce livre, en 1964, au fond, Panikkar disait quelque chose qui était vraiment dans l'air du temps, et qui ne semblait pas poser de difficultés particulières. En gros, ce qu'on comprenait à travers son livre, eh bien, c'est que même si le Christ s'est manifesté, s'est révélé en Palestine il y a 2000 ans, eh bien, il y a eu comme des pierres d'attente de la venue du Christ dans les traditions de l'Inde depuis des siècles. Voilà. Et au fond, à l'époque, les lecteurs du livre de Panikkar s'étaient dit bon, il ne dit pas quelque chose de très différent de ce que Jean Danielou avait écrit peu avant en France sur les préparations de l'Évangile dans la Grèce ancienne. Vous savez, l'idée de la préparation évangélique, l'idée suivant laquelle, bon, même si le Christ est venu il y a presque 2000 ans, à l'époque où Danielou écrivait, bon, en fait, dans les siècles précédant sa venue, il y avait déjà une attente réelle de Jésus-Christ, il y avait des pressentiments de sa venue, certains philosophes comme Platon avaient brûlé, en quelque sorte, ils avaient dit un certain nombre de choses qui annonçaient le message de Jésus. Bon. Au fond, l'idée qu'on trouvait aussi exprimée chez Teilhard de Chardin dans le texte que j'ai lu l'autre jour. Les longues générations, les longues durées qui ont précédé la venue du Christ n'étaient pas vides de lui, mais il y avait toute une série de pierres d'attente, en quelque sorte, pour prendre un mot familier à Vatican II, des pierres d'attente de sa venue et de son message. Le problème, c'est que Panikkar, en 1981, a publié une nouvelle édition de son livre, nouvelle édition en langue anglaise. Alors, le corps du livre était le même, si vous voulez, mais le livre, dans cette seconde édition, était précédé d'une préface neuve. Et dans cette préface nouvelle, Panikkar disait « On ne m'a pas bien compris. On a cru que je voulais dire simplement le Verbe de Dieu s'était déjà mystérieusement révélé aux prophètes et aux sages dans les siècles anciens avant de se manifester de façon claire et décisive en Jésus-Christ. On a cru que je voulais dire seulement cela. Mais en réalité, je voulais dire quelque chose de plus. Je voulais dire que le Christ, c'est le nom que les chrétiens donnent au mystère de l'existence, au mystère absolu de l'existence. Mais que ce nom, Christ, a en quelque sorte des équivalents dans les traditions ou dans certaines traditions de l'hindouisme. Autrement dit, Panikkar, dans cette préface de sa seconde édition, dit, j'ai ça J'ai pas simplement voulu expliquer qu'il y avait des préfigurations, des prophéties ou des annonces voilées du Christ dans les traditions anciennes, dans les traditions anciennes de l'hindouisme, mais je voulais dire qu'il y a une présence réelle du Christ dans l'hindouisme, au moins dans certains courants de l'hindouisme, et que simplement, Christ, c'est le nom que les chrétiens donnent au Christ, c'est le nom que les chrétiens donnent au mystère absolu de l'existence, de même que, de façon homologue ou analogue, bien les hindous trouvent dans certaines de leurs traditions un certain Ishvara, qui pour eux est le nom de ce mystère qui se manifeste aux hommes. Voilà. Il y aurait une sorte d'homologie, de parallélisme, enfin de correspondance entre l'une et l'autre appellation. Or, un certain nombre de théologiens ont réagi par rapport à cette seconde édition en disant ici, la pensée de Panikkar devient problématique, parce que autant il est juste de dire qu'il y a eu des préparations, des annonces voilées du Christ dans les traditions de l'Inde ancienne, autant ça pose problème d'en venir à dire que Christ est simplement un équivalent d'un nom analogue ou d'appellations analogues que les hindous peuvent donner au mystère absolu de l'existence au sein de leur propre tradition. Au fond, l'objection qui a été adressée à Panikkar, c'est bon, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de relativiser de quelque manière la foi au Christ, puisque il y aurait en quelque sorte une pluralité de religions. Bon, l'essentiel, c'est le mystère absolu de l'existence, le mystère divin, le tout autre, voilà. Mais ce mystère absolu, ce tout autre, eh bien, les chrétiens l'appellent le Christ dans leur tradition, les hindous peuvent l'appeler Ishvara, puis peut-être d'autres croyants peuvent l'appeler d'une autre manière encore, quoi. Est-ce qu'on ne va pas vers une sorte de relativisme qui n'honore pas suffisamment l'unicité du Christ ? Alors, j'ai pris l'exemple de Panikkar. À travers cet exemple, et on pourrait en donner bien d'autres, ce qui est en jeu, c'est la question, au fond, du statut même du Christ, du statut même, de l'importance même qui est reconnue au Christ. Si vous voulez, l'idée sous-jacente, certains théologiens qui ont raisonné, qui se sont avancés le plus loin dans cette problématique d'une théologie pluraliste des religions, c'est de dire, bien sûr, Jésus-Christ est très important, mais qu'est-ce que fait Jésus-Christ ? Il renvoie à Dieu. Bon, ça, c'est pas faux de dire ça, c'est même très juste. Simplement, le problème, c'est que ces théologiens, parfois, ils en viennent à dire, ils en viennent à laisser entendre qu'à la limite, tous les chemins pourraient conduire vers la réalité ultime. Pour les chrétiens, c'est le Christ. Pour les hindous, ça va être telle figure de la tradition hindoue, etc. Alors, je vous donne un exemple, justement, de ces théologiens qui ont réagi contre ce qui leur a paru un risque dans ces théologies du pluralisme religieux. L'exemple que je vous donne, c'est celui de Jacques Dupuis. Bon, Jacques Dupuis, qui connaissait bien, un théologien belge, il connaissait bien justement le sujet, puisqu'il avait lui-même vécu une bonne vingtaine d'années en Inde. Et il pose la question, est-ce qu'on peut vraiment dépasser, en théologie chrétienne, est-ce qu'on peut dépasser le christocentrisme ? Est-ce qu'on peut laisser entendre que le Christ est simplement un nom, parmi d'autres noms analogues, pour renvoyer finalement au mystère ultime de la réalité ? Et il dit ceci. Ce qui est en question dans le débat christologique mené dans le contexte du pluralisme des religions, c'est le christocentrisme traditionnel d'une vaste part de la théologie chrétienne. Un nombre croissant de théologiens, donc Panikkar, mais beaucoup d'autres, suggèrent qu'une perspective christocentrique n'est plus tenable dans le contexte actuel et qu'il faut lui substituer un modèle théocentrique. C'est à peu près clair, hein. Je donne un tout petit exemple. Un théologien. Qui qui lui n'est pas asiatique, hein, occidental, enseigne aux États-Unis. C'était un théologien presbytérien, c'était pas un théologien catholique. Eh bien, lui, il a pris l'image suivante. Autrefois, on disait que les religions gravitent autour du christianisme. Eh bien, aujourd'hui, il faut considérer que le christianisme est l'une des religions et que toutes les religions gravitent autour de la réalité ultime. Il dit ça à sa manière. Il faut passer du système ancien, la représentation du soleil, à un système moderne, copernicien, voilà, où justement ce n'est pas sont pas les planètes qui gravitent autour de la Terre, mais c'est la Terre et les autres planètes qui gravitent autour du soleil. Voilà. Donc il dit il faut opérer une révolution copernicienne en théologie. Ça radicalise même la position de Panikkar. Et donc Jacques Dupuis réagit contre cette position. Il dit « Cette affirmation demande quelques éclaircissements. » Il ne dit pas que tout soit faux là-dedans, hein, parce qu'on voit bien Jésus-Christ, en effet, dans les évangiles, il renvoie au mystère de Dieu. Hein. Mais il faut en même temps quelques éclaircissements, et même plus que ça, probablement des correctifs. Je continue le texte de Jacques Dupuis. « D'abord, il faut se demander si théocentrisme et christocentrisme sont réellement opposés. L'affirmer, c'est déjà, de soi, faire une option théologique et christologique. En réalité, le christocentrisme de la tradition chrétienne n'est pas opposé au théocentrisme. Jamais il ne place Jésus-Christ à la place de Dieu. Il affirme seulement que Dieu l'a placé au centre de son plan de salut pour l'humanité, non comme la fin ultime, mais comme la voie, non comme le but de toute recherche humaine de Dieu, mais comme le médiateur universel de l'action salvatrice de Dieu envers l'humanité. La théologie chrétienne ne se trouve donc pas face à un dilemme être christocentrique ou théocentrique. Elle est théocentrique en étant christocentrique, et vice-versa, cela veut dire que Jésus-Christ est le sacrement de la rencontre de Dieu avec les hommes. Si vous voulez, pour résumer le débat de façon plus simple, je dirais, dans une perspective de théologie occidentale traditionnelle, on avait tendance à mettre l'accent avant tout sur le Christ seul. Le fameux adage, hors de l'Église, pas de salut. Sous-entendu, hors de l'Église rassemblant ceux qui croient au Christ, il n'y a pas de salut possible. Aujourd'hui, on peut être tenté parfois, je dirais, d'aller à l'extrême opposé, et pour vouloir être entièrement accueillant au pluralisme des religions, on peut être tenté de dire « Oui, les chrétiens croient au Christ, hein, mais de même que les hindous croient à Krishna, etc., puis les musulmans une autre foi, les bouddhistes aussi, hein, et toutes ces religions sont simplement autant de chemins qui mènent, chacun à sa manière, vers la réalité ultime. » Vous voyez, on est aux antipodes de la position « hors de l'Église, pas de salut ». Alors, la position que Jacques Dupuis essaye ici de tenir, c'est une position de ligne de crête entre les deux. Il dit, certes, il ne s'agit pas de laisser entendre que Jésus-Christ ferme sur lui, en quelque sorte. Au contraire, Jésus-Christ renvoie au mystère de Dieu. En ce sens-là, ce n'est pas parce qu'on insiste sur la centralité du Christ qu'on perd de vue la centralité de Dieu. Christocentrisme et théocentrisme ne s'opposent pas. Mais en même temps, il faut tenir il faut tenir que Jésus-Christ n'est pas simplement un parmi d'autres, qu'il est incomparable, qu'il est unique. Je dis du point de vue chrétien, hein, libre aux hindous de penser autrement, libre aux musulmans de penser autrement, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, c'est le droit, bien sûr. Hein. Mais du point de vue de la théologie chrétienne, on ne peut pas raisonner comme si Jésus-Christ était simplement un chemin parmi d'autres pour conduire vers la réalité ultime. Vous voyez, est-ce que c'est un peu plus clair comme ça? C'est un peu comme ça qu'on peut essayer, me semble-t-il, de résumer ce débat, qui est un débat très très difficile. Et personnellement, je ne me satisfais pas complètement de l'argumentation de Jacques Dupuis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire théocentrisme et christocentrisme? Est-ce qu'il y a deux centres alors? Et je pense qu'il faut chercher un peu autre, quelque chose d'autre, hein. Ça fait partie de ce que nous avons à faire dans la suite de ce parcours. Mais il y a en tout cas, à travers cela, c'est ça que je veux dire pour le moment, un débat tout à fait fondamental, un débat tout à fait crucial. La question, ce n'est pas d'être fermé à la légitime diversité des religions. Depuis Vatican II, nous savons bien que l'Église catholique a clairement pris position pour un respect complet du droit des autres à croire autrement que nous. Donc la question n'est pas là. Mais la question, c'est de dire, dans cette situation nouvelle où l'Église catholique reconnaît la légitime diversité des religions, encore faut-il, malgré tout, rendre compte ce qui, du point de vue de la foi chrétienne, fait l'originalité irréductible, incomparable de Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est vraiment une question tout à fait centrale de la christologie aujourd'hui, et je pense pas seulement aujourd'hui. Je pense que c'est une question centrale pour la christologie de demain et après-demain. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'à Rome, on s'en rend compte. La théologie de libération ne pose plus de problème à Rome, pour l'essentiel. Je l'ai dit l'autre jour, en gros, le thème de l'option pour les pauvres, tout ça, en gros, c'est intégré, plus que jamais, avec le pape François. Voilà. Par contre, autour de cette question-là, on est en présence d'une difficulté absolument centrale, qui va demander, je crois, beaucoup d'efforts, de réflexion, en Asie, mais aussi dans d'autres continents. Parce que nous voyons bien que dans un continent comme l'Europe, où la réalité du pluralisme religieux devient elle-même de plus en plus prégnante avec l'expansion de l'islam et dans une moindre mesure le développement du bouddhisme, nous sommes aussi confrontés à cette question. Comment rendre compte de ce qui fait l'originalité de la foi chrétienne, de la foi en Jésus-Christ, dans ce contexte plurireligieux ? Voilà, alors, il y a des chemins qui sont possibles, heureusement. Et je ne vais peut-être pas le faire maintenant, mais après la pause, je vous présenterai ce qui me semble être l'une des réflexions les plus intéressantes aujourd'hui de la part des théologiens asiatiques pour aller de l'avant sur cette question même. C'est la réflexion d'un théologien de Sri Lanka, qui s'appelle Aloysius Pieris. Voilà, je dirai quelques mots là-dessus après la pause. Sur ce que je viens d'expliquer, ça va, c'est à peu près clair, hein, parce que c'est une question importante et qui ne se posait pas avec la même acuité il y a 50 ans. Là, on est en présence vraiment d'une question, je crois, relativement récente et très radicale pour la réflexion christologique. Voilà, ben on prendra dans une dizaine de minutes. Voilà, je voudrais apporter une petite précision que je n'ai pas donnée tout à l'heure, mais quand je disais que la théologie chrétienne, tout en étant ouverte à la légitime diversité des religions, doit veiller à rendre compte de ce qui fait l'unicité de Jésus-Christ, bien sûr, ça n'empêche pas de dire en même temps, ça fait partie aussi de la foi chrétienne, l'espérance chrétienne, de tenir que le salut est offert à tous. Donc il faut aussi tenir les deux. Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, mais pour tous, pour la multitude, pour vous et pour la multitude. Bon, et pour développer ça, il faudrait faire appel à toute une réflexion sur l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans le monde et dont nous croyons que, justement, il peut agir, il agit en ceux-là même qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu avoir accès à l'Évangile. Donc, il faudrait aussi ajouter cet élément, je ne peux pas le développer ici, mais ça doit bien sûr aussi être pris en compte. Alors, ce que je voudrais, ce que j'ai surtout insisté sur l'importance du problème qui se pose, qui n'est pas un problème purement actuel, qui est un problème en un sens de tous les temps. Parce que dès les origines, l'affirmation de Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu a été confrontée à des sagesses ou à des religions autres, Dans le passé, c'était les religions du monde grec, du monde latin, etc. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui en sens. Mais c'est une question qui se radicalise depuis deux ou trois décennies. Elle se radicalise notamment parce que la réalité du pluralisme religieux se fait plus prégnante, hein, pour des tas de raisons, enfin, le fait que les gens se déplacent davantage, les migrations de population, etc. Et j'ai surtout, au fond, souligné l'importance du problème, sa radicalité. Mais je voudrais terminer ce chapitre en montrant, à titre d'exemple, une bonne tentative, justement, pour aller de l'avant, pour essayer d'avancer par rapport à cette question difficile. Cette tentative, c'est celle d'un théologien de Sri Lanka qui s'appelle Aloysius Pieris, qui est très très engagé dans le dialogue avec le bouddhisme en particulier. Et dans un article, il écrit ceci: « Toute recherche christologique dans le cadre des cultures asiatiques achoppera sur le fait que ni Jésus ni la religion qu'il a fondée n'ont trouvé grand écho en Asie. Gautama, le Bouddha, et Muhammad, le prophète, sont des noms familiers en Orient. Mais la grande masse des Asiatiques, plus de 97%, ignore pratiquement Jésus, le Christ. Jésus n'était pourtant pas moins asiatique que les fondateurs du bouddhisme et de l'islam. Et même parmi le petit nombre de gens qui croient en lui, combien se souviennent que la parole de Dieu a choisi de se faire asiatique en faisant sienne notre humanité. » L'auteur prend acte du fait que Jésus est né au Proche-Orient, continent de l'Asie et non pas de l'Europe. Et il pose cette question: comment se fait-il que les premiers Asiatiques qui l'ont entendu pour nous et qui nous ont donné les textes normatifs concernant sa filiation divine ont réussi une percée significative en Occident, mais n'ont pas réussi à pénétrer dans l'éthos culturel complexe de l'Asie? Voilà l'énigme, si vous voulez, dont part Aloysius Pieris. Voilà. Comment expliquer cela? 97% seulement. Voilà. Plus de 97% ignorent pratiquement Jésus le Christ. Voilà. Bon, en Asie, il y a quand même, il y a les Philippines, il y a une très grande majorité de chrétiens. Bon, en Corée, il y a beaucoup de chrétiens. Timor oriental. C'est vrai qu'en dehors de ces pays, majoritairement, eh bien, ce ne sont pas des chrétiens, mais bon, des hindous, des taoïstes, des bouddhistes, etc. Voilà. Alors, Pieris commence donc par poser cette question dans sa radicalité, et c'est alors qu'il apporte un premier élément de réponse. Il dit, au fond, quand les missionnaires sont venus de l'Occident, comme Matteo Ricci au XVIe siècle, ils ont essayé d'intégrer des rites qui leur paraissaient compatibles avec le christianisme. Des rites qui leur paraissaient avoir une portée culturelle assimilable par le christianisme. Des rites des ancêtres, par exemple. Mais ils ne se sont pas préoccupés des religions proprement dites. C'est vrai que pour Ricci, le bouddhisme, c'était purement simplement la superstition. Alors, Ricci avait fait le choix de s'adresser aux lettrés confucéens, mais pas aux bouddhistes. Voilà. Et alors, Pieris, là-dessus, avance la thèse suivante, je lis le texte. La porte jadis fermée à Jésus en Asie est la seule qui puisse s'ouvrir à lui aujourd'hui, à savoir le noyau sotériologique ou libérateur des diverses religions qui ont donné forme et stabilité à nos cultures. La thèse de Pieris, c'est que pour que le message du Christ, l'annonce de l'Évangile, ait chance de pénétrer dans ce contexte éminemment religieux des cultures asiatiques, eh bien, il ne faut pas simplement se contenter d'inculturer le christianisme en reprenant tel ou tel rite ou tel élément culturel des civilisations de l'Asie, mais il faut pouvoir s'appuyer sur des éléments, des composantes proprement religieuses des grandes traditions de l'Asie, au lieu de les considérer globalement comme des superstitions, comme des fausses religions, etc. Bon, si vous voulez, ça rejoint un petit peu l'idée de Michael Malados dans le texte que je lisais tout à l'heure. Trouver dans le contexte de l'Asie, mais pas seulement dans le contexte culturel, également dans son contexte religieux, eh bien, des éléments qui puissent être assimilés par la réflexion théologique, notamment christologique. Alors, Aloysius Spyris n'est pas naïf et il ne manque pas de lucidité. Il le dit explicitement dans le même texte, ou dans un autre texte, peu importe, mais il dit explicitement par ailleurs que dans ces traditions religieuses de l'Asie, il y a bien sûr des éléments qui sont absolument non assimilables par la théologie chrétienne. Et puis, il dit, c'est ce langage qu'il emploie, il y a une dimension pécheresse aussi de cette religiosité asiatique, bien sûr. Mais en même temps, il n'y a pas que cela. Alors, que faut-il faire à partir de là? Eh bien, la thèse que Aloysius Spyris avance, c'est la suivante. Rencontrons, nous qui sommes chrétiens d'Asie, Spyris est un chrétien de Sri Lanka, bon, nous qui sommes chrétiens d'Asie, rencontrons des croyants d'autres religions, essayons de parler avec eux et tâchons, quand c'est possible, de lire avec eux l'Évangile. Et alors, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Ben, il se passera que, là où ce sera possible, cette lecture de l'Évangile menée ensemble par des chrétiens et par des non-chrétiens pourra suggérer aux chrétiens eux-mêmes des images, des mots significatifs pour parler du Christ d'une manière qui soit audible dans le contexte plurireligieux de l'Asie. Je lis Spyris, hein, c'est ce que je viens de résumer sa pensée, je lis maintenant ce qu'il écrit. Dans le contexte des religions asiatiques, la signification d'une expression comme « fils de Dieu » dépend de la découverte du point sensible dans le cœur de l'Asiatique où Jésus, en nous faisant redire son histoire, trouvera le langage qui convient pour nous faire part de son identité unique au sein du mystère. C'est très intéressant. Parce qu'une approche comme celle-là, elle ne met absolument pas en cause, justement, l'unicité du Christ. Il s'agit bien de lire l'Évangile, de lire la vie de Jésus telle qu'elle est rapportée par les Évangiles, mais il s'agit de le faire dans le contexte de l'Asie, et même si possible, avec des chrétiens, des croyants d'autres religions. Et c'est à la faveur d'une telle expérience, qui est, en parenthèse, réellement vécue par Spyris, là où il travaille, à Colombo, près de Colombo, c'est à la faveur d'une telle expérience que, peu à peu, bien, des mots, des concepts, des langages vont surgir à la conscience des chrétiens et vont permettre, au fil des années, ou des décennies, ou peut-être des siècles, de forger une christologie pertinente dans le contexte de l'Asie. Ça ne veut pas dire qu'elle sera acceptée par tous. Bien sûr, les bouddhistes resteront bouddhistes, etc., mais au moins pour les chrétiens, eh bien, il y aura un langage, pour les chrétiens d'Asie, il y aura un langage significatif et pertinent. Et il termine ainsi, je lis, « Je me plais à penser qu'un discours significatif sur le Fils de Dieu surgira principalement dans les cultures asiatiques d'un dialogue en profondeur entre ces communautés chrétiennes périphériques et ces disciples du Christ non chrétiens qui tentent de se raconter les uns aux autres l'histoire du Christ en termes du mystère du salut, un absolu, un et trine. » Bon, tout ça, ce n'est pas réalisable forcément, hein, en tout lieu, tant s'en faut. Mais ça peut quand même se produire, ici ou là. Et là où ça se produit, c'est prometteur. C'est prometteur. À travers un test comme celui-là, on sent bien que, bien, on est en présence d'un projet de langage christologique qui à la fois soit pleinement fidèle au sens pleinement fidèle à la tradition chrétienne, où il s'agit bien de lire les évangiles et de rendre compte de la foi au Christ, mais qui en même temps ne soit plus taxé de langage importé de l'Occident, parce que ce sera un langage vraiment enraciné dans ce contexte culturel et religieux des chrétiens d'Asie. Voilà, c'est en tout cas un exemple, sûrement d'autres tentatives intéressantes, mais celle-là me semblait particulièrement digne d'intérêt. Alors, nous arrivons au terme de cette longue première partie. C'est saisissant de voir l'importance des évolutions qui se sont faites jour dans le champ de la christologie en dehors de l'Europe, depuis 30 ou 40 ans. Et comme je l'ai déjà dit à deux ou trois reprises, je suis persuadé que ces évolutions refluent au bénéfice de la théologie européenne elle-même, parce que la réflexion des chrétiens d'Europe sur le Christ, elle aussi, se trouve confrontée à la question de la libération. Il y a des pauvres en Europe, sous quantité de formes. Elle se trouve confrontée à la question de la culture. Nous sommes dans un temps de mutation culturelle. Donc, réfléchir sur ce qu'implique une christologie inculturée dans le contexte même de l'Europe, c'est fort important. Et puis, la christologie en Europe aussi se trouve confrontée de plus en plus à la question du pluralisme religieux. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas seulement important pour ces communautés chrétiennes d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie, mais qui reflue aussi, qui peut refluer de façon bénéfique sur la christologie européenne aujourd'hui et demain. Voilà. Alors, bien sûr, la suite du cours, on va passer à la deuxième partie du cours, ça aura notamment pour objet de nous aider par un approfondissement de l'écriture, de la tradition. Sera pour objet de nous aider à voir de quelles ressources nous disposons pour aller de l'avant, pour répondre à ces différentes questions que nous avons pu identifier. Mais avant de me lancer dans cette deuxième grande partie du cours, s'il y a une ou deux questions, je peux y répondre. Je peux au moins entendre ces questions. Je ne sais pas si je peux y répondre. Mais... Alors, nous avançons, donc, deuxième partie du cours, Jésus-Christ dans la tradition de l'Église. Voilà. Donc, après avoir pris acte des développements de la réflexion christologique à l'époque contemporaine, nous essaierons maintenant de découvrir comment l'identité de Jésus-Christ a été comprise au long des siècles, spécialement dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, avant de revenir, dans une troisième partie, à un propos, disons, de théologie plus systématique. On essaiera, dans la troisième partie, de voir comment nous pouvons redire aujourd'hui, avec nos propres mots, ce mystère de l'identité de Jésus-Christ, chemin vers le Père. Alors, comme d'habitude, donc, vous avez un plan là, qui permet de suivre. Je commence par un premier chapitre, enfin c'est chapitre 4. La foi au Christ dans le contexte des controverses avec le judaïsme, les courants gnostiques et le monde païen. Voilà. Et puis, la prochaine fois... On abordera donc les deux conciles, enfin les grands conciles qui se sont prononcés sur l'identité du Christ au 5e siècle, donc le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine. Donc la foi au Christ dans le contexte des controverses avec le judaïsme, les courants gnostiques et le monde païen, donc il va s'agir ici du 2e, du 3e siècle essentiellement. Je ne dis rien du Nouveau Testament. Mais dans la troisième partie, je repartirai du Nouveau Testament pour essayer de proposer à nouveau frais, en quelque sorte, une réflexion sur l'identité du Christ. Quelques remarques préalables. Première remarque, c'est que pour penser et comprendre la foi en Jésus-Christ, nous avons très peu de sources autre que celle du Nouveau Testament. Nous avons très peu de sources païenne. Bon, il y a un ou deux écrivains, deux ou trois écrivains de langue latine, hein, de la fin du 1er siècle ou début du 2e siècle, qui font allusion aux chrétiens, ou qui parlent du Christ, mais de façon très très brève. Un historien comme Tacite, par exemple, ou un écrivain comme Pline le Jeune, mais c'est vraiment très peu de choses. Du côté juif, un peu plus de sources, mais pas beaucoup non plus. La principale source, c'est un historien juif du nom de Flavius Joseph. Mais pour l'essentiel, enfin, ce que nous pouvons dire sur disons, la confession de foi en Jésus comme Christ, aux origines, eh bien, cela se fonde essentiellement sur le témoignage du Nouveau Testament, plus quelques évangiles apocryphes, surtout le Nouveau Testament. C'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que... Alors, simplement, sur cette remarque, un tout petit commentaire. Il ne faut pas trop s'en étonner de ce que je viens de dire là. Oui. S'il s'agissait simplement de parler de l'histoire de Jésus, eh bien, de fait, on pourrait s'appuyer sur quelques documentations extérieures au Nouveau Testament. Mais dès lors qu'il s'agit de la foi en Jésus-Christ, eh bien, seuls les chrétiens en témoignent, évidemment. Donc, il n'est pas très étonnant de découvrir que notre principale source d'information sur la foi en Jésus-Christ, ce sont les textes du Nouveau Testament. Deuxième remarque préliminaire, dès le Nouveau Testament, nous constatons que la référence au Christ se présente à la fois sous la forme de l'accueil d'un événement qui a eu lieu et de l'attente d'un nouvel événement. Voilà. Donc l'attente d'un événement qui a eu lieu, pardon, l'accueil d'un événement qui a eu lieu, c'est évidemment l'accueil de l'événement du Christ mort et ressuscité. Tout le Nouveau Testament en témoigne. Mais aussi l'attente d'un événement à venir qui est eh bien, la nouvelle venue de Christ, la seconde venue du Christ. C'est très exactement la structure de ce qu'on appelle l'anamnèse, hein, qui est tellement importante qu'elle est reprise dans l'Eucharistie, hein, juste après la prière de consécration. On a ça, par exemple, chez saint Paul, hein, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon mon évangile. » Donc ça, c'est la dimension du souvenir et de l'accueil d'un événement passé, hein, « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. » Mais il y a aussi la dimension de l'attente d'un avenir. On voit ça, là encore, chez saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens. Vous savez, c'est le récit de l'institution de l'Eucharistie, hein, au chapitre 11 de la première aux Corinthiens. « Toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne. Et deux ou trois textes du Nouveau Testament, enfin deux au moins, témoignent de l'importance de cette attente. Ce sont les fameuses prières Maranatha. Hein, « Viens, Seigneur Jésus. » Donc la référence au Christ se trouve formulée dans le Nouveau Testament, à la fois sous ce mode d'un souvenir et d'une attente. Un souvenir d'un événement qui vient de se produire et attente de la nouvelle venue du Sauveur. Alors l'événement central, troisième remarque préliminaire, l'événement central dont le Nouveau Testament fait précisément mémoire, c'est la résurrection du crucifié. Si on cherche quel est le cœur de la foi en Jésus-Christ, j'irais dans ce qu'elle a de plus élémentaire, dans ce qu'elle a de plus simple, si on cherche la formulation la plus brève de cette foi, eh bien, on en trouve deux. La première, c'est Jésus, Christ est Seigneur. Voilà. Lorsque les chrétiens disent Jésus et Christ est Seigneur, voilà. Ils ont tout dit. Parce que dire que Jésus est Seigneur, c'est appliquer à l'homme Jésus le nom qui, dans la Bible grecque, traduit le nom divin. Jésus est Seigneur. Donc dire Jésus-Christ est Seigneur, c'est reconnaître que cet homme, qui est vrai homme, est vraiment du côté de Dieu. Vrai homme, vrai Dieu. Jésus-Christ, Jésus-Seigneur. Je dirais Seigneur plus encore que Christ, hein, parce que mon Christ, on pourrait dire, vous savez que Christ, hein, ça veut dire, c'est celui qui a reçu l'onction, hein, celui qui a été oint, Christos, hein, celui qui a reçu l'onction. Messie, Christ. Bon, dire Jésus-Christ, de soi, ça ne suffit pas complètement à dire que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'après tout, est-ce qu'il n'y a pas des prophètes qui ont reçu l'onction? Bien sûr, Simon-Pierre a dit, Simon, la confession de Césarée, il dit, tu es le Messie, le Christ. Bon, mais qu'est-ce que Simon entendait par là? Beaucoup de choses sûrement, mais il n'a peut-être pas encore tout compris, je pense, de l'identité de Jésus. Tandis que après Pâques, à partir de Pâques, c'est clair, on ne dit pas simplement Jésus est Christ, on dit Jésus est Christ et Seigneur. Ce qui est une manière de confesser sa divinité. Ça, c'est la première formule. Or, la seconde formule originelle de la christologie, je dirais le noyau originel de la christologie, c'est celle qui évoque l'événement qui précisément a conduit à reconnaître en plénitude cette divinité de Jésus. Et l'événement en question, c'est la résurrection du crucifié. Alors ça, on trouve ça dans les fameux discours de Pierre dans les Actes des Apôtres. Hein. Ce Jésus que vous aviez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Voilà. Avec ça, l'essentiel est dit. C'est l'événement essentiel sur lequel se fonde la christologie. Je dirais volontiers, la christologie n'est rien d'autre que l'explicitation au long des siècles. Hein. La christologie n'est rien d'autre que l'explicitation de cette formule « Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité. Jésus-Christ est Seigneur. » Voilà, les millions de pages qui ont été écrites depuis 20 siècles sur le Christ, finalement, ne sont rien d'autre que l'explicitation de cette cellule originelle, ce noyau originel. Un homme était mort, Dieu l'a ressuscité. Et à partir du moment où ils le reconnaissent comme ressuscité d'entre les morts, eh bien, les premiers témoins de la résurrection, les premiers disciples, les premiers chrétiens, confessent que cet homme est vraiment Seigneur. Seigneur, donc en grec, c'est Kyrios. Hein, quand on dit Seigneur, prends pitié, hein, Kyrie eleison, hein, c'est le mot Kyrios, hein, Seigneur. Or, Kyrios, c'est le mot qui, dans la Bible grecque, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, hein, Kyrios, c'est le mot qui traduit le nom de Dieu, hein, le Seigneur. Donc, appliquer à l'homme Jésus le titre Seigneur, c'est le mettre du côté de Dieu, c'est dire qu'il est Dieu. Alors, j'ajoute une dernière remarque préliminaire, c'est que pour accéder au premier développement de la réflexion sur le Christ, il ne faut pas interroger simplement le Nouveau Testament, il ne faut pas seulement interroger les textes des Pères de l'Église, comme nous avons le faire, mais il faut aussi interroger l'expression artistique de la foi au Christ. L'art chrétien primitif. L'art chrétien primitif, hein, les plus anciennes représentations que nous ayons gardées datent du 2e, 3e siècle, donc c'est vraiment notre époque. Cet art chrétien primitif, notamment dans les catacombes à Rome, dit déjà beaucoup sur la foi des premiers chrétiens, qui ne se contentent pas de considérer Jésus comme un homme parmi d'autres, mais qui reconnaissent en lui le Seigneur. Alors, pour que ça ne reste pas complètement abstrait ce que je dis là, je suis en train de préparer, donc mardi prochain, je vous présenterai là, sur l'écran quelques-unes de ces représentations de Jésus. Bon, je pourrais le faire maintenant, mais je préfère d'abord évoquer les textes des Pères de l'Église du 2e et 3e siècle. Et quand on les aura étudiés, quand on aura compris au fond les représentations dominantes du Christ dans ces premières générations qui ont suivi le Nouveau Testament, je crois que ce sera d'autant plus parlant de voir quelques images des premiers témoignages artistiques à propos de Jésus de Nazareth. Alors, donc je ferai ça au début de la prochaine séance. Pour aujourd'hui, je voudrais expliquer qu'au 2e et 3e siècle, donc là nous quittons le Nouveau Testament, au 2e et 3e siècle, avant l'époque des grands conciles, comme le concile de Nicée ou le concile de Chalcédoine, dont on parlera la semaine prochaine, et puis la séance suivante aussi, au 2e et 3e siècle, la foi en Jésus-Christ, elle se dit, elle s'exprime, elle se formule, bien sûr, au sein de la communauté chrétienne, avant tout dans le cadre de la liturgie, mais elle se comprend, elle se pense à la faveur d'un triple débat. Le débat avec les Juifs, le débat avec un certain nombre de croyants que l'on qualifie traditionnellement comme hérétiques, voilà, les gnostiques, etc. Et troisièmement, la foi au Christ se développe à la faveur d'un débat avec la philosophie grecque. C'est cela que je voudrais un petit peu développer maintenant. Il faut évidemment se remettre dans la situation. Au IIe siècle, c'est avant la conversion de Constantin, début du IVe siècle. Au IIe siècle, au IIIe siècle encore, les chrétiens sont minoritaires, très minoritaires. Et non seulement ils sont minoritaires, mais à certains moments ils sont persécutés. Il y a des chrétiens qui sont par moments persécutés à Rome ou dans d'autres villes de l'Empire romain. Alors lorsque les chrétiens restent entre eux, dans le cadre par exemple de la célébration du baptême ou de la célébration de l'Eucharistie, ils prient avec les mots du Nouveau Testament, d'autres prières qui se sont forgées depuis, mais ils n'ont pas à rendre compte de leur foi. Ils l'approfondissent entre eux. Bon, ils se réunissent aussi beaucoup entre eux pour lire ensemble les Écritures. Mais dès lors que les chrétiens se trouvent confrontés à d'autres qui ne sont pas chrétiens, qui ne partagent pas leur foi, ils sont en quelque sorte provoqués à rendre compte de leur foi au Christ. Alors la première confrontation, c'est celle avec les Juifs. Bon, la foi en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ et Seigneur, elle se comprend, elle s'approfondit en quelque sorte, d'abord dans le contexte de ce débat avec les Juifs. Comme vous savez, ça remonte au Nouveau Testament. Il suffit de lire les évangiles pour voir l'importance, les évangiles et Saint Paul bien sûr, pour voir l'importance du débat entre les chrétiens et les Juifs. Déjà dans le Nouveau Testament, les évangélistes, Saint Paul, situent la foi en Jésus-Christ dans sa différence par rapport à la foi des Juifs qui ne croient pas au Christ. Tous les premiers chrétiens sont des Juifs. Des Juifs qui croient au Christ. Pardon ? Oui ? Alors, la transmission écrite, les évangiles ont été écrits dès les dernières décennies du 1er siècle. Alors, il y avait bien sûr une tradition orale, vous avez tout à fait raison, il y avait beaucoup de transmissions orales. La première génération des chrétiens, la première génération, il y avait uniquement la transmission orale. Et puis très vite, justement, on a vu qu'on allait changer de génération, on s'est dit, mais il faut absolument mettre par écrit ces témoignages de la tradition orale. Et c'est pour ça que, alors il y a des disputes entre les exégètes sur la date précise de l'évangile de Marc, de l'évangile de Luc, mais aujourd'hui nous savons que les évangiles synoptiques ont été écrits dans les années 70-80, plus ou moins, l'évangile de Jean un petit peu plus tard, un peu par étapes, mais dès la fin du premier siècle ou début du deuxième siècle, tout était écrit. Ce qui n'empêchait pas qu'il y avait aussi des traditions orales qui continuaient. Alors, le débat entre les chrétiens et les juifs sur la question de Jésus, donc il se présente déjà dans le Nouveau Testament, mais évidemment, il s'amplifie beaucoup au long du deuxième siècle et du troisième siècle. Alors, nous avons un exemple remarquable de cette confrontation entre le christianisme et le judaïsme à propos de l'identité de Jésus. C'est, comme je l'ai mis sur le papier, une œuvre d'un auteur chrétien du milieu du IIe siècle qui s'appelle Justin. Justin était un païen converti au christianisme et il a écrit un dialogue qui s'appelle « Dialogue avec le juif Tryphon ». C'est une œuvre littéraire, mais qui certainement s'appuie sur une conversation réelle que le chrétien Justin a eue avec un certain juif. C'est un vrai dialogue, hein, c'est-à-dire que chacun argumente, et à la fin d'ailleurs il n'y a pas de happy end, hein, c'est-à-dire chacun reste sur ses positions, c'est au lecteur de trancher en quelque sorte. Alors, c'est passionnant parce que ce dialogue, qui aborde beaucoup de thèmes, aborde entre autres justement la question du Christ, et on voit bien à la fois l'argument qui est celui du judaïsme, et puis l'argument opposé des chrétiens. L'argument juif, qui est représenté, donc l'argument des juifs, représenté ici par Tryphon, c'est de dire, Jésus, quand même, c'est un homme qui a été crucifié. Vous autres chrétiens, vous mettez votre espoir en un homme qui a été crucifié, et vous dites que cet homme est Dieu. C'est pas possible. Un homme qui a été crucifié, comme ça, c'est pas possible qu'il soit Dieu. Voilà l'argument. Bon, il y a d'autres arguments qui s'ajoutent, mais l'argument principal, c'est celui-là. La réponse du chrétien Justin, elle est toute simple, elle est de dire Jésus, y compris Jésus crucifié, est bien le Messie que vous-même attendiez, d'après vos Écritures. Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu. Alors, pour argumenter, Justin recourt à plusieurs types d'arguments. Premier argument, c'est ce qu'on appelle l'argument typologique. L'argument typologique, on peut dire aussi l'argument figuratif, c'est l'argument qui consiste à lire dans certains personnages de l'Ancien Testament des figures ou des types du Christ. Bon, c'est là que l'iconographie chrétienne, la prochaine fois, nous aidera. On verra au moins une illustration de cela. Je donne un exemple tout simple, Isaac. Isaac, qui est offert en sacrifice et qui marche vers le mont Moria pour y être sacrifié. Bon, au dernier moment, il y a un bélier qui surgit, donc finalement, il aura la vie sauve. Mais Justin, comme les autres pères de l'Église, reconnaissent dans Isaac une sorte de préfiguration, un typos, un type, une figure, de Jésus qui, effectivement, allait connaître la mort. Non plus sur le Moria, mais sur le Golgotha. On pourrait donner bien d'autres exemples. Dans le livre de Daniel, l'épisode où on voit Daniel dans la fosse au lion. Et puis Daniel en réchappe. Alors, Justin, comme d'autres pères de l'Église, comprend que Daniel, à travers ce personnage de Daniel dans l'Ancien Testament, eh bien, il faut lire une préfiguration de Jésus, qui certes s'est trouvé dans la fosse au lion, avec sa passion, son procès, sa mort sur la croix, mais qui finalement a échappé au lion, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est ce qu'on appelle l'argument typologique. Donc, c'est évidemment très important vis-à-vis des juifs, comme Tryphon, puisque Justin dit, mais vous connaissez très bien, nous partageons ensemble les mêmes écritures, les écritures anciennes. Donc Isaac, vous connaissez bien. Daniel, vous connaissez bien. Et ben voilà, ce qui est raconté à propos d'Isaac ou à propos de Daniel, voilà, c'est justement ce qui vient de s'accomplir. Donc Jésus, c'est la réalisation, l'accomplissement de ces figures, de ces personnages de l'Ancien Testament. Voilà le premier argument. Deuxième argument développé par Justin, c'est ce qu'on appelle l'argument prophétique. Bon, ça, je n'ai pas besoin d'y insister, c'est bien connu. On le trouve déjà dans les évangiles, quand l'évangile de Matthieu dit « Ainsi devait s'accomplir la prophétie d'Isaïe », etc. Alors, il y a deux exemples qui sont célèbres entre tous et que Justin prend dans son ouvrage. Premier exemple, c'est la naissance virginale. Le passage du livre d'Isaïe au chapitre 7, qui est interprété par Justin, comme parmi les premiers chrétiens, comme une préfiguration, une annonce prophétique de la naissance virginale. Puisque dans la traduction grecque de « la jeune fille enfantera », le mot grec qui est employé, c'est le mot « parthénos » qui veut dire « la Vierge ». Alors Justin dit, ben voilà, justement, c'est bien s'accomplir, donc vous avez dans vos écritures anciennes une prophétie de la venue de Christ. Et puis, il y a un autre exemple, c'est celui de la Passion. Donc, Justin explique à son interlocuteur juif qu'il y a dans l'Ancien Testament un certain nombre de textes qui prophétisent la Passion du Messie. Justin dit à son interlocuteur, vous, les Juifs, donc vous dites, puisque Jésus est crucifié, il ne peut pas être le Seigneur. Mais regardez, dans vos Écritures, dans le psaume 21, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» au chapitre 52 du livre d'Isaïe, « Le serviteur souffrant », vous voyez bien qu'il y a bien la figure de quelqu'un qui est envoyé par Dieu, qui est le Messie, et qui cependant est appelé à la mort. Mais en même temps, le Seigneur le sauvera. C'est aussi dit dans le chant du serviteur souffrant. Donc ça, c'est le deuxième argument, l'argument prophétique. Si vous voulez, les chrétiens, les premiers chrétiens sont convaincus que en Jésus-Christ se trouve pleinement accompli ce qui était prophétisé par Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les autres prophètes. Alors, on dirait, mais dans ce cas-là, pourquoi les Juifs ne le croient pas? C'est parce que, en dépit des apparences, l'argumentation ne consiste pas à déduire à partir des textes anciens l'événement qui vient de se produire. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que ce qui est premier, c'est la foi au Christ. Mais la foi au Christ permet de relire autrement les Écritures anciennes et de découvrir comment ces Écritures prophétisaient ce qui vient de se passer. C'est très exactement ce qu'on a dans le récit des pèlerins d'Emmaüs. Le Christ est ressuscité, il chemine avec les deux disciples et il leur dit « Ne comprenez-vous pas ce qui était déjà écrit ?» Et donc, en commençant par Moïse et prophète, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Bon, s'il n'y a pas la foi au Christ, il ne peut pas y avoir cette relecture du Premier Testament sous cet angle. Ça, c'est le deuxième argument, l'argument prophétique. Troisième thème, ça c'est très très intéressant, chez Justin, dans son dialogue avec le juif Tryphon, c'est le thème de l'autre Dieu, dans ce qu'on appelle les théophanies, c'est-à-dire les manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a un exemple privilégié qui est celui de l'apparition de trois mystérieux personnages au chêne de Mambré, dans la Genèse au chapitre 18. Voilà. Bon, un épisode que le juif Tryphon connaît très bien. Alors comment interpréter ces trois mystérieux personnages ? Qui n'est pas simplement un ange, mais qui est une expression anticipée, une révélation anticipée de ce que Dieu s'approche de l'humanité. Voilà. Voilà l'argument de Justin. C'est que Dieu, déjà à l'époque d'Abraham, Dieu s'est révélé, en quelque sorte. Il s'est révélé à travers quelqu'un qui parfois précisément est appelé Seigneur. Alors je vous cite le texte de Justin, vous avez ce passage sous les yeux. « Je reviens aux Écritures pour essayer de vous convaincre que celui qui est dit s'être fait voir à Abraham, à Jacob, à Moïse, et qui est désigné comme Dieu, puisque Abraham l'appelle bien Seigneur à un moment, eh bien il n'est autre que le Dieu qui a fait toutes choses, j'entends pour le nombre et non pas pour la pensée. Voilà. Il s'agit d'un autre Dieu. Alors, un autre Dieu, ça pose problème. Parce que ça veut dire qu'il y a un Dieu et un Dieu. Ah, mais alors, que devient le monothéisme? On avait appris qu'il y a un seul Dieu. C'est pour ça que Justin apporte cette précision. Un Dieu et un autre Dieu, quant au nombre, mais pas quant à la pensée. Une formule un petit peu bizarre, mais qui veut dire qu'il ne s'agit pas de comprendre qu'il y a une pluralité de dieux, il y a un seul Dieu, et néanmoins, cette unité de Dieu n'empêche pas qu'il y ait distinction entre un et un. Alors, dans son langage à lui, Justin dit un Dieu et un autre Dieu. Bon, cette expression, plus tard, elle apparaîtrait comme hétérodoxe, parce qu'on aurait l'impression que c'est un retour au polythéisme. Mais il ne faut pas faire d'anachronisme. Et en son temps, ce que Justin veut simplement dire, c'est que, justement, déjà, le livre de la Genèse laisse entendre que le Dieu des chrétiens, même si c'est un Dieu un, c'est un Dieu qui se révèle, qui se manifeste comme quelqu'un et quelqu'un. Ils sont au moins deux. Puis on apprendra qu'ils sont trois. Il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que Justin profite de cette réflexion sur les théophanies dans l'Ancien Testament pour dire que déjà dans les siècles antérieurs à la venue du Christ, le Verbe de Dieu se révèle comme existant. Bien sûr, Jésus est né un jour du temps, récemment, il y a un siècle. Mais ce Jésus qui est né un jour du temps n'est autre que ce Dieu qui déjà manifestement, enfin obscurément plutôt, se manifestait à Abraham au chêne de Mamré. Voilà. Ce n'est pas Jésus qui préexistait évidemment, puisque Jésus est né un jour du temps. Mais ce Jésus qui est né un jour du temps n'est autre que le Verbe de Dieu qui lui préexistait, et qui préexistait tellement qu'il a pu déjà de quelque manière se communiquer à Abraham, le fameux épisode de l'apparition à Mamré. Donc c'est Justin qui, le premier, introduit ce mot préexistant. C'est une date. Hein. Le mot préexistant ne figure pas comme tel dans le Nouveau Testament, mais c'est Justin qui l'introduit. Et voilà, ça fera partie aussi des tâches de la christologie, hein, de rendre compte de ce que signifie cette préexistence du Verbe de Dieu. Enfin, dernier argument de Justin dans le cadre de cette confrontation avec le judaïsme, c'est le thème de la seconde parousie. Ce que je disais tout à l'heure, la grande objection de Tryphon, plus largement du judaïsme à cette époque, c'était de dire c'est pas possible de croire qu'un homme crucifié soit le Messie de Dieu, pas possible de croire qu'un homme crucifié soit le Fils de Dieu. Alors, Justin répond, en fait, nous sommes, comme vous, dans l'attente d'une manifestation du Messie ou du Fils de Dieu dans la gloire. C'est ce qu'on appelle la parousie à venir. Parousie, c'est-à-dire la présence, la manifestation, la venue du Christ dans la gloire. Mais ce que dit Justin, c'est que ce n'est pas parce que nous attendons, comme vous, une manifestation du Christ dans la gloire, que nous ne reconnaissons pas déjà une première manifestation du Christ dans l'humilité. Et donc, pour Justin, il y a deux manifestations, deux parousies du Christ. Le Christ s'est déjà manifesté une première fois, mais dans l'humilité, dans l'humiliation, allant jusqu'à mourir sur une croix, et le même Christ se manifestera un jour dans la gloire. C'est le thème des deux parousies, pour répondre à l'objection de Tryphon. Alors c'est très intéressant parce qu'au fond, ça nous montre comment le débat avec le judaïsme, dès cette époque ancienne, au IIe siècle, a beaucoup contribué au développement d'une première christologie. Les chrétiens se sont trouvés provoqués à l'approfondissement de leur christologie dans le cadre de cette confrontation avec les juifs. Alors, deuxième confrontation, je l'introduis, je poursuivrai la prochaine fois. Deuxième confrontation, c'est la confrontation avec ce qu'on a appelé traditionnellement des hérésies au IIe siècle, au IIIe siècle. Alors, la première de ces hérésies, on lui donne le nom de docétisme. J'ai écrit le mot sur la feuille du plan. Docétisme. Docétisme, ça vient du mot grec dokein, qui veut dire sembler, paraître. Voilà, sembler, paraître. Donc, on appelle docétisme cette forme de pensée, ce courant de pensée, qui consiste à laisser entendre que Dieu n'a pris qu'une apparence d'humanité. Voilà. L'erreur du docétisme consiste à dire, puisque Jésus-Christ est Seigneur, puisqu'il est le Fils de Dieu, nécessairement, il n'est pas complètement homme. Donc, il a dû prendre simplement une apparence d'humanité sans être vraiment homme. Déjà, le Nouveau Testament montre que cette hérésie docète existe, puisque la première épître de Saint Jean commence en disant ce que le Verbe de Dieu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché du Verbe de Dieu. Saint Jean insiste sur le fait que, justement, le Verbe de Dieu a pris corps, qu'il a pris chair, qu'on pouvait le voir, l'entendre, le toucher. C'est déjà une réaction contre des courants docètes. Mais ces courants du docétisme ont été, semble-t-il, très très importants tout au long du IIe siècle, et les pères de l'Église ont essayé d'y répondre. Et puis, il y a une hérésie particulièrement importante au IIe siècle, qui est l'hérésie de Marcion. Alors Marcion, non seulement il était docète, mais en plus, il considérait qu'il y avait une opposition radicale entre le Dieu de Jésus-Christ et le Dieu de l'Ancien Testament. L'idée de Marcion, c'est que dans l'Ancien Testament, on a l'impression que Dieu est un Dieu qui peut se mettre en colère, qui est un Dieu jaloux, etc. Tandis que le Dieu annoncé par Jésus est un Dieu bon, compatissant, etc. Et du coup, Marcion, il n'y va pas par quatre chemins, il dit il faut supprimer l'Ancien Testament. Voilà. Puis même dans le Nouveau Testament, il faut supprimer les passages qui donnent une image peu flatteuse de Dieu. Voilà. Ce qui fait qu'au total, il reste pas grand-chose. Voilà. C'est quand même l'évangile de Luc et certains textes de Paul qui avaient le plus, surtout l'évangile de Luc, qui trouvaient le plus grâce auprès de Marcion. Et au IIe siècle, vraiment, les chrétiens se sont battus pour essayer de dire contre Marcion, non. Malgré les expressions relatives à la colère de Dieu, à son emportement contre les injustes, etc., dans l'Ancien Testament, malgré tout cela, c'est un seul et même Dieu qui se révèle dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Un seul et même Dieu. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les courants gnostiques. Les courants gnostiques, c'est-à-dire des courants qui reposaient sur un dualisme radical. La création est mauvaise. La création, pour les gnostiques, est mauvaise. Elle est l'œuvre d'un Dieu inférieur. Et les gnostiques considèrent qu'il y a une opposition entre la lumière, le principe de la lumière, le Dieu suprême, et les ténèbres de la matière, du mal, du péché, etc. Un dualisme radical qui s'oppose évidemment à la conviction chrétienne selon laquelle Dieu est vraiment au-dessus de tout et qu'il n'y a pas de principe du mal concurrent, celui de Dieu. Voilà, alors la prochaine fois, je montrerai rapidement comment les pères de l'Église, enfin surtout saint Irénée, ont relevé ce défi des hérésies du IIe siècle. Et puis je dirai aussi quelques mots sur la christologie en débat avec la philosophie grecque, et donc, comme j'ai annoncé, sans oublier de présenter aussi quelques représentations, les premières représentations du Christ dans l'art chrétien. Donc, à mardi prochain.